c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier.
Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein.
Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur.
Ou un jour passé. Allô la gang, salut les voyageurs du temps, Stéphane Dupont vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette édition de PVT de décembre 2018. J'espère que de votre côté, vos préparatifs pour le temps des fêtes sont déjà amorcés, sinon ben, faudrait peut-être commencer à y penser. Le réveillon, les cadeaux, en fait, il y a pas mal d'ouvrages à faire d'ici le 24 décembre au soir, soir du réveillon. Comme on est le mois de décembre, on a commencé PVT un peu différemment, avec une pièce musicale, parce que, ben écoutez, Noël, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la famille, et notre année vedette aujourd'hui, qui est l'année 1985, il y a eu une grosse preuve de solidarité mondiale grâce à cette pièce-là. La pièce We Are The World, qui est une chanson caritative qui a été enregistrée par le super groupe américain USA for Africa. Elle est écrite par Michael Jackson, Lionel Richie et coproduite par Quincy Jones et Michael O'Martian sur l'album We Are The World. Le single a pour objectif de collecter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie, qui était vraiment un fléau à cette époque-là. L'événement historique réunit quelques-uns des artistes les plus célèbres de l'industrie musicale. La chanson sort le 7 mars 1985 comme seul single de l'album et devient un succès commercial instantané au niveau international. La chanson est en tête de plusieurs palmarès de musique à travers le monde et devient le premier single à être récompensé plusieurs fois à disque platine par la RIAA. Cependant, la chanson reçoit un avis mitigé là, de la part des journalistes, des critiques de musique et même du public. We Are The World reçoit par contre de nombreuses récompenses, dont 3 Grammy Awards, un American Music Award et un People's Choice Award. Le single est devenu l'un des plus vendus au monde avec près de 20 millions d'exemplaires écoulés. Il a réussi également à récolter plus de 63 millions de dollars pour l'aide humanitaire en Afrique et aux États-Unis. En début d'année 2010, à la suite des ravages causés par le tremblement de terre à Haïti, il y a une reprise de la chanson qui est à ce moment-là faite par d'autres chanteurs et célébrités. Le single titré « We Are The World 25 for Haiti » est destiné à lever des fonds pour les victimes du séisme. Ben les amis, on va tout de suite commencer avec des éphémérides. Comme je l'ai dit précédemment, ben notre année vedette, c'est l'année 1985. Et on part avec le 13 février où Denis Lortie est condamné à la prison à vie. Son avocat décide d'aller en appel. On parle bien sûr du caporal Lortie, qui est un tueur de masse canadien, auteur de la tuerie du 8 mai 84 à l'hôtel du Parlement de Québec. Il s'est introduit armé en uniforme militaire dans l'hôtel du Parlement de Québec dans le but avoué d'assassiner René Lévesque et les députés du Parti québécois. Il a tué sur son passage 3 personnes, en a blessé 13 autres, avant de se laisser capturer le jour même sans avoir pu réaliser son dessein, n'ayant atteint même aucun député. Selon le psychiatre Pierre Mailloux, un des experts au dossier, devant la cour, Denis Lortie souffrait alors de schizophrénie paranoïde. Il aurait donc organisé son crime à la suite d'un délire psychotique. Lortie croyait agir selon la volonté de Dieu. Il disait suivre la lumière. Le 11 mai 87, après l'invalidation du procès et la tenue d'un autre, il est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à perpétuité, soit un minimum de 10 ans avant la possibilité d'une libération conditionnelle. Actuellement, Denis Lortie, qui a obtenu sa libération conditionnelle en 95, habite à Kentley, où il est propriétaire d'un dépanneur. On se transporte au 11 mars où Gorbatchev devient le numéro 1 de l'URSS. Il était âgé de 55 ans. Mikhail Gorbatchev succède alors à Konstantin Tchernenko, qui lui est décédé le 10 mars. Le nouveau secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique engagera l'URSS dans une série de réformes radicales au nom de la perestroïka. Gorbatchev sera le dernier chef communiste de l'URSS. Il démissionnera en décembre 1991 après l'effondrement du bloc communiste. Il est un homme d'État soviétique né en 1931. Il a dirigé l'URSS de 1985 à 1991 et il se marie à Raïssa Titarenko. Ils ont une fille qui se nomme Irina. À partir de 1985, il met en marche le processus démocratique avec les mots d'ordre de Perestroïka et il a dû gérer en 1986 la catastrophe de la centrale nucléaire Tchernobyl. Le desserrement de l'étau stalinien aboutit à la chute du mur de Berlin en 1989. et la réunification de l'Allemagne en 1990. Finalement, en 1991, à la désintégration de l'Union soviétique et République indépendante. En 1990, Gorbatchev, reçoit le prix Nobel de la paix pour son rôle déterminant dans l'arrêt de la guerre froide. Gorbatchev a été également président du Présidium du Soviet suprême de 1988 à 1989. Hey les chummies, on se lance tout de suite avec un doublé musical. On aura la formation Starship avec We Build This City. Mais auparavant, la formation Dire Straits avec Money for Nothing. Cette pièce apparaît dans l'album Brothers in Arms sorti en 85. Le morceau a été écrit par Mark Knopfler avec la participation de Sting qui chante les harmonies à certains moments tout au long du morceau. Lors de la finale, Sting chante I Want My MTV sur l'air de son tube Don't Stand So Close to Me, ce qui lui vaut sa mention comme co-auteur. On peut entendre ce titre dans la première scène du film Kingsman, Service Secret. Le clip apparaît en entier dans le film UHF également. Cette chanson a créé une polémique et a été censurée pour des vers qui, pris au premier degré, évoquaient une attitude homophobe. Money for Nothing a gagné le Grammy for the Best Rock Performance et on retrouve Money for Nothing sur les trois compilations du groupe Money for Nothing, The Very Best of Dire Straits et The Best of Mark Knopfler and Dire Straits. Alors voici les amis, Money for Nothing!
ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
We built this city on rock and roll.
On vient d'entendre We Build This City, une chanson écrite par Bernie Taupin, composée par Martin Page, Dennis Lambert et Peter Wolfe. C'est bien sûr interprété par le groupe rock américain Starship. Sortie en single le 1er août 1985, elle est extraite de l'album Knee Deep in the Hoopla. Il s'agit du premier single du groupe sous le nom de Starship, qui auparavant s'appelait Jefferson Starship. Il se classe numéro 1 des ventes aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. Avec We Build This City, Starship obtient une nomination pour un Grammy Award de la meilleure prestation vocale rock pour un groupe ou un duo. On poursuit côté éphéméride avec le 11 avril où la Sûreté du Québec effectue une rafle au local des Hells Angels de Sorel, ce qui se solde par l'arrestation d'une cinquantaine de personnes, de la saisie de 150 000 $ et de 200 armes. Les policiers veulent faire la lumière sur le meurtre de 6 motards commis à la fin mars et dont les corps n'ont toujours pas été retrouvés. Les meurtres se sont produits au club des Hells Angels situé à Lennoxville au Québec le 24 mars 1985. À ce moment-là, 5 membres du chapitre Nord des Hells Angels, fondé par Laurent Langlais et Yves Trudeau, ont alors été froidement abattus. Cet événement serait à l'origine des tensions entre plusieurs gangs de motards criminalisés au Québec et aurait conduit à la fondation des Rock Machine, l'un des plus grands rivaux des Hells. Plusieurs membres des Hells Angels étaient présents et ont joué un rôle dans l'assassinat, mais seulement 4 furent reconnus coupables de meurtre prémédité. Harold Pelletier, Luc Sam Michaud, Régent Zigzag Lessard et Robert Snake Tremblay. Les autres furent reconnus coupables de crimes moins graves. Maintenant, on parle du 31 mai où c'est l'inauguration du premier Festival international des feux d'artifice de Montréal. À ce moment-là, bien, c'est commandité par Benson & Hedges. Du 31 mai au 19 juin se tient le premier Festival international des feux. L'événement qui, comme je l'ai dit précédemment, est commandité par Benson & Hedges, se déroule sur l'emplacement du parc d'attractions La Ronde. Ce spectaculaire événement peut être observé par des dizaines de milliers de curieux à partir des rives du fleuve Saint-Laurent et du haut du pont Jacques-Cartier, qui, lui, est fermé pour l'occasion. Tout ça se solde, bien sûr, par une éblouissante démonstration de 40 minutes de feux d'artifice. Les organisateurs remettent la palme d'or dans la catégorie classique à une firme du Japon, alors que c'est une firme française qui décroche cet honneur dans la catégorie pyro-musicale. C'est un franc succès à sa première année d'existence. Le festival sera repris sur une base annuelle et a d'ailleurs encore lieu aujourd'hui. Par contre, maintenant, le commanditaire est bien sûr Loto-Québec. Écoutez, je vais reprendre mon souffle un peu. Un petit peu de difficulté à parler aujourd'hui. On dirait que ma langue ne veut pas suivre. Alors, on va y aller côté musical. Ce que j'ai à vous offrir, on aura la formation Sly Fox avec Let's Go All The Way. Mais auparavant, pourquoi pas la formation Falco avec Rock Me Amadeus. C'est le premier single du troisième album du musicien autrichien Falco, qui se nomme Falco 3, sorti en 1985. C'est l'unique chanson d'un artiste germanophone qui devient numéro 1 aux États-Unis. Outre, Falco était ainsi le deuxième interprète autrichien après Anton Karas, qui dominait les Billboard charts. Alors voici Rock Me Amadeus. Ihm liebten alle Frauen und jede rief, da kam man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, da kam man Rock Me Amadeus. Es war irgendwie noch
plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock, mir ab, mein Ding ist toll.
Sinking in the sand.
Let's go all the way, c'est ce qu'on vient d'entendre, une chanson du groupe américain Sly Fox, sortie comme single en décembre 1985 à partir de leur premier album studio qui portait le même nom, soit Let's Go All the Way. Le disque est entré dans le Billboard le 28 décembre, il a atteint le top 10 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Malgré des succès commerciaux et critiques considérables, le groupe n'a pas réussi à satisfaire les attentes là, de cette pièce-là comparativement à leur dernier single. Puis pourtant, ce groupe-là, ben, il était qualifié de prodige à succès. On parle maintenant du 3 juillet 1985 où, ben, au lieu de fêter l'anniversaire de la ville de Québec, c'est avec consternation que les citoyens apprenaient que deux policiers municipaux avaient été abattus au petit matin au cours d'un vol par effraction commis dans le parc industriel Jean Talon. Les deux patrouilleurs, Jacques Giguère, 43 ans, et Yves Tétu, 25 ans, répondaient au déclenchement d'une alarme dans les bureaux d'un dépôt dentaire. Le policier Giguère avait été abattu dans le commerce et son collègue, Tétu, près de leur autopatrouille. Aucun des deux n'avait utilisé son arme de service, même si 6 coups de feu avaient été entendus. Un choc terrible car le surlendemain, le sergent Serge Lefebvre de la police de Sainte-Foy était arrêté après une chasse à l'homme impliquant des policiers de Québec, de Sainte-Foy et de la Sûreté du Québec. Sergent de la police municipale de Sainte-Foy, Serge Lefebvre est accusé d'avoir abattu les deux policiers de Québec alors qu'il cambriolait un commerce à la limite des deux villes. Il avait tenté de se suicider sur le pont de Québec en se tirant une balle dans le thorax à l'aide de son arme de service et cette nouvelle laissa les policiers et la population sous le choc. On va parler cinéma car le 25 août, ben, un grand film québécois fait sa sortie sur grand écran. On parle de la première du film Le Matou, un téléfilm québécois réalisé par Jean Baudin et mettant en vedette Guillaume Lemaitie-Vierge. Il est tiré du roman Le Matou d'Yves Beauchemin. Le Matou raconte l'histoire rocambolesque de Florent, un jeune homme ambitieux qui fait la rencontre de son Méphistophèle en la personne d'un riche vieillard, Egon Ratablavansky, qui lui, ben, il va lui permettre d'acquérir l'objet de sa convoitise, la binerie Mont-Royal. Se greffe à ses personnages le jeune Émile, un jeune garçon naufragé de la rue qui retrouve, ben, plutôt qui trouve refuge dans le restaurant tenu par Florent et sa compagne. Également, un chat qui sera appelé à devenir le héros du roman. La générosité de Ratablavansky cache des désirs de domination et une méchanceté sordide dont seule la malignité du matou d'Émile saura venir à bout. Ce dernier s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a été traduit en 16 langues. Parlant de l'auteur, il fit des études supérieures à l'Université de Montréal, lui permettant de décrocher une licence en lettres et en histoire de l'art. Il se destine d'abord à l'enseignement de la littérature dans un collège, mais L'Amphiroapé, son premier roman, écrit en 1974, lui vaut le prix France-Québec. En 1981, Le Matou devient un best-seller international, vendu à plus d'un million d'exemplaires et traduit en 16 langues. Il publie ensuite avec succès Juliette Pomerleau, Le Second Violon, Les émois d'un marchand de café et la serveuse du café Chérier. Un recueil de nouvelles, Une nuit à l'hôtel se situe dans son Abitibi natal, fait inusité chez un romancier dont l'œuvre se déroule avant tout dans le milieu urbain de Montréal. Alors voilà, c'était ce qui se rapporte au film Le Matou. On retourne côté musical avec deux bonnes pièces. En tout cas, moi, c'est des pièces qui me rappellent beaucoup de souvenirs. On aura la formation Aha et Take On Me. Mais auparavant, pourquoi pas Tears for Fears avec la pièce Shout qui est parue en single le 23 novembre 1984 au Royaume-Uni. Huitième single du groupe et second extrait de l'album Song from the Big Chair, Shout rencontre un énorme succès, se classant à la quatrième place dans plusieurs charts américains et européen. Il parvient en 1985 à atteindre la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et au niveau international, ce titre devient l'un des plus grands hits de l'année 85, atteignant le top 5, voire la première place dans de nombreux pays. Alors voici mes amis, Shout!
Shout, shout,
On vient d'entendre Take On Me, la formation AHA. Ça a été enregistré une première fois par le groupe en 84, qui l'éditera en 45 tours et maxi 45 tours, accompagné d'un premier vidéoclip plutôt basique. La version va passer un peu inaperçue auprès du grand public, faute de promotion. Par contre, en discothèque, la chanson connaît un joli succès. Le titre est réenregistré pour leur premier album Hunting High and Low, paru en 85. Cette version illustrée par un clip novateur connaîtra un énorme succès un peu partout sur la planète. Il s'agit du single le plus vendu du groupe. AHA décide en 2009 de rééditer la pièce en single numérique qu'ils nommeront Digital 45. On va parler maintenant de rentrée de télé, car en 1985, il y avait quand même une petite guéguerre entre les différents réseaux de télévision, et c'est à Télémétropole, l'ancêtre de TVA, qu'on retrouve la plus spectaculaire offre de la rentrée. Le Canal 10 frappe un coup de circuit avec L'Heure du Temps, un téléroman qui prend l'antenne le 9 septembre 85 et qui se termine 8 ans plus tard, soit le 14 juin 93. On note également parmi les émissions Justice pour tous, une émission animée par Louis-Paul Allard, Le Château des enfants, une émission jeunesse diffusée sur l'heure du midi, et le futur du réseau TVA se distingue aussi avec sa pléiade de séries américaines doublées en français, dont K2000, et également la série V, Les Visiteurs. Par contre, toutes les décisions prises par Télémétropole à l'époque ne sont pas aussi glorieuses à des séries qui connaissent moins de succès. Entre autres, on parle de Casse-tête avec Daniel Lemire, L'âme sœur, un téléroman avec Daniel Bissonnette et Michel Noël. Il y a aussi L'agent fait le bonheur, une comédie avec Roger Lebel, Raymond Cloutier, Daniel Proulx et Marcel Leboeuf. On parle aussi d'Un amour de quartier, la série Chez Manon. Bref, il y a une pléiade de séries qui ne connaît pas autant de succès là, que d'autres cette année-là. On peut parler aussi de l'émission Saint-Didry qui, lui, ben oui, ça a connu un grand succès. Ça jouait le samedi soir avant la soirée du hockey. Et cette émission-là, elle a influencé plusieurs humoristes de la relève. Le 1er septembre, c'est la redécouverte du Titanic, un paquebot de la White Star Line qui repose à 3800 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Toujours à quelques kilomètres de l'endroit où il a sombré le 15 avril 1912 à 2h20 du matin. Objet de fantasme depuis la catastrophe, l'épave est recherchée pendant de nombreuses années. Des projets plus ou moins sérieux sont mis en branle pour tenter de le renflouer, mais ça n'aboutit pas. Les premières recherches sérieuses débutent à la fin des années 70 à l'instigation du milliardaire Jack Grimm, mais l'épave reste introuvable. Elle est finalement retrouvée le 1er septembre 85 par Robert Dwayne Ballard dans le cadre d'une mission secrète pour la marine américaine. De nombreuses expéditions s'en suivent de 1986 à 2010. Il y a une équipe franco-américaine qui repère l'épave et on sait que le luxueux paquebot britannique était réputé pour être indestructible. Il avait coulé entraînant la mort de 1500 personnes. Il sera exploré en 87 par le sous-marin français le Nautil qui remontera notamment de l'argenterie et des bijoux. Le navire se désagrège progressivement, rongé par les micro-organismes qui peuplent les fonds marins. Les plongées ont aussi un impact négatif sur son état. Selon plusieurs sources divergentes, les scientifiques pensent qu'elle aura disparu vers 2029, 2031 ou même 2037. On s'en va côté musical avec la formation Miami Sound Machine, la pièce Bad Boy, mais auparavant, pourquoi pas, le grand Stevie Wonder avec la pièce Part-Time Lover. C'est écrit bien sûr par Stevie lui-même, c'est issu de son album In Square Circle. Alors, je vous offre ça tout de suite avec plaisir, voici Part-Time Lover. Part-time lover. Le populaire groupe Miami Sound Machine, Bad Boy, qu'on vient de s'offrir, c'est en fait le deuxième single du groupe américain dirigé par Gloria Estefan sur leur deuxième album en anglais. Et en fait, c'était le neuvième au total qui se nommait Primitive Love. La chanson a eu beaucoup de succès suite au single révolutionnaire du groupe Conga. La chanson a ouvert le film Trois hommes et un bébé. On va parler du 2 octobre où en fait ben, c'est la création du réseau Fun Radio. À l'origine, Fun Radio est une station de radio privée française détenue par le groupe RTL. Il y a un réseau de radiodiffusion constitué de la station de radio nationale et de 11 antennes locales. Produisant chacune leur programmation, le format de cette radio est musical, orienté sur le dance floor. Fun Radio explose au début des années 90 avec les matinales d'Arthur et l'émission Love and Fun animée par Doc et Defool. Dans les années 2000, rattachée au groupe RTL, la radio peaufine son positionnement musical, ciblant une audience jeune et propose des émissions emblématiques, entre autres, on parle de Planète Arthur, Eric et Ramsey Show, Morning the Cowet et Manu à la radio. Fin 2016, le groupe M6 rachète les stations françaises de RTL Group, entre autres RTL, RTL2 et Fun Radio. C'est Jean-Baptiste Blanchemain, Éric Péchard et Pierre Lattès qui s'emparent des 6 stations locales qui appartiennent au groupe Énergie afin de créer le réseau Fun Radio. L'événement se prépare à l'insu de tous et apparaît comme un véritable putsch à l'encontre d'Énergie. Le réseau devra rapidement faire face aux problèmes financiers et les directeurs, également les animateurs, se succéderont au rythme des aléas de l'audimat. Visant un jeune public, les styles musicaux diffusés varieront, passant du rock au groove ou du groove au R&B. Alors, Fun Radio qui est un groupe très populaire en Europe. On va parler également du 2 octobre où ben, c'est la mort de l'acteur Rock Hudson, de son vrai nom Roy Harold Shearer. C'est un acteur américain né le 17 novembre 1925 à Winnetka, c'est dans l'Illinois. Il est mort le 2 octobre 1985 et ce à Beverly Hills aux États-Unis. À 85, il est l'une des premières vedettes à déclarer publiquement être atteint du sida, ce qui attire une grande attention sur ce fléau. Le grand public découvre également à cette occasion son homosexualité jusque-là cachée. et en contradiction avec l'image que donne lui-même ses rôles. L'histoire de Rock Hudson est celle d'une illusion telle que Hollywood savait les fabriquer. Le favorite leading man des années 1950, soit le joli cœur des comédies avec Doris Day, l'acteur suave de 70 films, il savait pas jouer, il savait pas chanter. Danser, il ne savait pas désirer une femme, toute activité qu'il faisait, ben, il était contraint de la faire à l'écran. Le jour, il tournait, la nuit, il s'encanalinait, à peine sorti des studios encore maquillé, il draguait dans les boîtes louches et faisait partie du réseau nocturne des gays de Haley. Il fut le sujet d'innombrables chantages et de râles policières. On retourne en musique, pourquoi pas? L'émission tire presque à sa fin. Le temps de vous présenter encore quelques pièces musicales, de vous parler encore de deux petites éphémérides. Et ça sera déjà le temps de conclure l'émission. On aura la formation Dead or Alive avec You Spin Me Right Round. Mais auparavant, voici la formation Baltimora avec la pièce Tarzan Boy, une chanson enregistrée par Baltimora. Elle constitue le premier single du groupe sorti au mois d'avril 1985. Il est issu de l'album Living in the Background. Elle constitue la première piste, en fait. Le titre fut réenregistré en 1993 et fut reprise par plusieurs artistes au fil du temps. Le refrain utilise le cri de Tarzan comme ligne mélodique. La chanson rythmée se compose d'une mélodie au texte simple sur fond de musique électronique dans le genre italo-disco. Alors voici Tarzan Boys. Première pièce en son genre, hein, qui relie disco et techno, à la formation Dead or Alive avec You Spin Me Right Round. Ben du monde a dansé là-dessus. En tout cas, moi, c'était mon cas, je suis sûr que vous autres aussi. Il y a plusieurs chanteurs et chanteuses qui l'ont également repris, cette chanson-là. Entre autres, on parle de Jessica Simpson qui l'a repris en 2006. A également été repris en 2008 par un groupe québécois, la formation Indochine. On va parler du 3 décembre où, ben en fait, l'ONU reconnaît l'arrondissement historique du Vieux-Québec comme étant joyau du patrimoine mondial. Le Vieux-Québec est le cœur historique de la ville. C'est à cet endroit que le fondateur Samuel de Champlain y bâtit son habitation en 1608. La géographie est également déterminante pour lui à cette époque-là. On retrouve en haut du cap la Haute-Ville. Au bas du cap, ben, la Basse-Ville. Le tout est réuni par le concept du site patrimonial du Vieux-Québec, fondé, comme dit précédemment, par Champlain au début du 17e siècle. La Haute-Ville est située au sommet de la falaise. C'est un centre religieux et administratif avec des églises, des couvents, certains monuments, dont la Redoute Dauphine. Et la Basse-Ville, ben, il y a des quartiers des anciens avec un ensemble plus urbain qui est un des meilleurs exemples de ville coloniale fortifiée. On parle aussi du 27 décembre, toujours 1985, où c'est la zoologue américaine Diane Fossey qui est retrouvée morte dans son campement d'études de Karisoke au cœur du Parc national des volcans au Rwanda. Symbole de la lutte pour la protection des gorilles en Afrique, Diane Fossey s'est passionnée pour les grands singes à la fin des années 60. Ennemie jurée des braconniers, sa mort a été provoquée par 6 coups de machette assénés sur sa tête. Il n'y a aucune preuve qui prouvera que ce sont les braconniers qui l'ont assassiné. Et la vie de Diane Fossey sera adaptée au cinéma en 1988 par le réalisateur Michael Apted dans le film Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver. Diane Fossey est née le 16 janvier 1932 à San Francisco. Voyageurs du temps, c'est déjà terminé pour l'édition de décembre. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve pas que c'est ma meilleure de PVT. Un petit peu de difficulté à parler aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je vous promets que la prochaine épisode va être grandement meilleur avec encore des bons faits historiques à vous proposer et surtout de la bonne musique. Alors d'ici là, les amis, passez un joyeux temps des fêtes. On se retrouve l'année prochaine et bien sûr, ce qui est important, passez du temps en famille. Hein. On se quitte côté musical avec Eurythmics et la pièce There Must Be an Angel, composée par Annie Lennox et Dave Stewart pour l'album Studio Be Yourself Tonight, sorti en 85. Elle comprend un solo à l'harmonica du chanteur américain Stevie Wonder. La chanson est sortie en tant que deuxième single de l'album et est devenue un hit mondial. Alors les amis, je vous laisse apprécier cette pièce-là. Bye bye tout le monde, on se retrouve le mois prochain. Voici There Must Be an Angel.
Strong.